Le bruit du monde, la suite, c'est Sous les radars et c'est Anaïs Feuga. Est-ce qu'on entend là, Anaïs? Ce sont des prières au moment du solstice. Nous sommes dans les Andes.
Nous sommes chez le peuple indigène Aymara en Bolivie au moment du solstice d'hiver. C'est le nouvel an andin des Aymara dans leur montagne. Nous voici donc avec ces femmes emmitouflées dans leurs longues jupes épaisses, colorées, les hommes en poncho. Les paysages des Andes sont sublimes. Ils sont réunis sur un petit plateau dans l'ombre du Nevado Illimani en attendant les premiers rayons du soleil. Et au début de cette nouvelle année, la communauté demande de l'eau à la Pachamama, la terre-mère ancestrale, car le glacier de la montagne recule à cause du changement climatique.
Si.
Ce fermier explique qu'ils sont très inquiets, car si les montagnes dégèlent, je pense que la vie disparaîtra. L'eau, c'est la vie, non ? Il dit encore qu'ils ont choisi de faire une offrande afin d'avoir suffisamment d'eau pour l'irrigation. Voilà donc ces paysans des Andes qui préparent leur offrande avec de la graisse de lama et des feuilles de coca. Mario Churatola est le chef de la communauté. Nous tenons une croyance de nos ancêtres et nous faisons une huerta, une offrande. C'est comme un repas pour la Chichila, la divinité de la montagne. Nous lui servons une sorte d'assiette de nourriture. Car la neige ne tombe plus en Bolivie. Près de la passe, dans les années 90, il y avait un glacier de 15 mètres d'épaisseur sur le mont Chacaltaya, la station de ski la plus élevée au monde, à 5000 mètres. Ce n'est plus qu'un souvenir, les dernières glaces ont fondu entre 2009 et 2011. La fonte des glaciers andins s'accélère, elle est beaucoup plus rapide que prévu. L'assèchement des rivières et la remise en cause de l'irrigation menacent directement les communautés paysannes. Et 20% des approvisionnements en eau de la ville de La Paz dépendent des glaciers.
En Afrique, on utilise là la ressource solaire.
Le Togo vient d'inaugurer hier une gigantesque centrale photovoltaïque. C'est vraiment impressionnant, 92 hectares de panneaux solaires. Il y en a plus de 100 000. La terre en est recouverte à perte de vue. Construite en temps record, 18 mois, par une filiale d'Amea Power, un géant des Émirats Arabes Unis, d'où cette centrale baptisée du nom du prince héritier d'Abu Dhabi. Écoutez la ministre togolaise des Mines, Mila Aziablé, hier à l'inauguration.
La centrale Cheikh Mohamed bin Zayed de 50 MW, crête de Blita, est la plus grande centrale solaire photovoltaïque de la sous-région, utilisant la technologie des trackers solaires, ce qui permet d'augmenter le rendement des panneaux solaires en leur faisant suivre la course du soleil.
Cette méga centrale, la plus grande d'Afrique de l'Ouest, devrait fournir en électricité renouvelable 158 000 ménages togolais et épargner 1 million de tonnes d'émissions de CO2 tout au long de ses 25 ans d'exploitation, selon le président togolais.
Et Anaïs, on termine avec vraiment ce qui est la photo du jour, des longues files devant les kiosques à journaux de Hong Kong.
On a beaucoup parlé sur cette antenne de l'Apple Daily, ce journal pro-démocratie contraint par Pékin de cesser de paraître. Eh bien, le dernier numéro est sorti ce matin à Hong Kong. Il a choisi pour ça une, la photo d'un journaliste qui, depuis la salle de rédaction, salue les centaines de personnes rassemblées hier devant le siège. L'Apple Daily est mort, a écrit le rédacteur en chef adjoint, arrêté la semaine dernière dans une lettre d'adieu au lecteur. La liberté de la presse est devenue la victime de la tyrannie, écrit encore Monsieur Chan. Parmi les acheteurs de l'Apple Daily ce matin, Liu, un employé trentenaire qui avait fait la queue pour avoir son exemplaire. J'ai acheté ce journal parce que ça représente l'esprit de Hong Kong, qui est la liberté. Et la liberté de la presse est une des libertés qui compte et je veux vraiment soutenir ça. Je veux vraiment passer le flambeau à la génération suivante et envoyer ce message aux quatre coins du monde. Aux premières heures du jour, des centaines de personnes ont attendu la sortie du journal. En 26 ans d'existence, il était devenu le tabloïd le plus populaire de Hong Kong, ferraillant avec ce qui allait devenir son bourreau, le pouvoir communiste chinois.
C'est toujours triste de voir disparaître un journal, là peut-être évidemment particulièrement. Anaïs Feuga, merci beaucoup.